Actualité, commentaires, analyse, opinion. C'est Bouchard en parle.
FM 93, ça me parle.
6h36, je veux revenir assez brièvement quand même sur le décès de cette fillette à Granby la semaine dernière. Je sais qu'on en a parlé abondamment. Je pense pas qu'on en a trop parlé. Je pense que ce genre de situation-là, on peut jamais trop en parler. Faut savoir que les funérailles vont avoir lieu cette semaine, ce jeudi. Ouais. Et la bonne nouvelle quand même là-dedans, il y a eu un élan de générosité de la part de la communauté assez incroyable. Les parents, la famille, en fait, n'auront à débourser aucun frais pour les funérailles. Ça va être couvert à 100% par la générosité de la communauté. Il y a eu des centaines de personnes qui sont allées lui rendre hommage en fin de semaine. Et c'est pas des gens qui étaient proches d'elle. C'est pas des gens qui la connaissaient nécessairement. Mm-hmm. On va l'appeler Alicia, en passant, pour les besoins de la cause. C'est le surnom, le nom fictif, en fait, que la presse lui a donné la semaine dernière. Quand j'ai dit ça la semaine dernière, il y a des gens qui avaient peut-être manqué au début du segment, qui disaient, vous avez pas le droit de donner son nom. Alicia, c'est pas son vrai nom.
Non.
C'est le nom fictif et c'est comme ça qu'on va l'appeler encore ce matin. Un petit commentaire comme ça en passant. Il y a des spécialistes judiciaires qui se sont prononcés en fin de semaine. Vous savez que si vous avez partagé des photos d'elle dans les derniers jours jusqu'à la semaine dernière, si vous avez partagé son vrai nom, vous vous exposez à des poursuites judiciaires.
Même si vous êtes chroniqueur au Journal de Montréal?
Écoute, ça, n'importe qui, vous n'avez pas le droit. Je sais, j'ai vu son avis de décès qui a été partagé beaucoup en fin de semaine aussi, où évidemment on voit sa photo et son vrai nom. Je sais que c'est un avis de décès, je sais que c'est public.
Ouais, ça, c'est touché, ça.
C'est touché, mais quand même, on n'a pas le droit de partager des informations relatives à qui pourraient en fait permettre de l'identifier. Et s'il y a une plainte à la police contre vous, eh bien oui, vous pouvez être poursuivi pour ça. Il y a beaucoup de gens qui y croient pas. Ils disent, voyons donc, ils ne pourront jamais arrêter des milliers de personnes qui l'ont partagé. Ben, s'il y a une personne qui porte plainte contre vous, personnellement, pour avoir partager son nom.
Vous accuser.
Oui, il peut vous accuser. Effectivement. Alors, juste vous rappeler comme ça, là, à ce jour, on n'a toujours pas le droit de la nommer ni de partager sa photo. Il y a une ordonnance de non-publication. Alors, on revient donc sur cette histoire-là, cette terrible histoire-là, parce que Patrick Lagacé, le chroniqueur de la presse, et aussi chroniqueur chez Cogeco, d'ailleurs, a publié deux chroniques ce week-end. Et je pense qu'il a vraiment mis le doigt sur quelque chose qui est un petit peu tabou à discuter.
Deux éléments.
Ouais, il y a deux éléments. Le premier, avec lequel je suis d'accord à 100%, il existe au Québec et partout dans le monde des parents qui sont inaptes à être parents, tout simplement. Qui sont inaptes. Des gens qui n'auraient pas dû avoir d'enfants, qui ont quand même décidé d'avoir des enfants. Alors, je vais vous rappeler un petit peu le profil des parents de la petite Alicia. Sa mère biologique a un trouble de personnalité limite, doublé d'une légère déficience intellectuelle, triplé d'un trouble obsessionnel compulsif amplifié par de l'anxiété. Là, je lis les mots de la chronique de Patrick Lagacé, qui date de samedi dernier. Enceinte, elle se frappe le ventre. À la naissance, elle tient des propos menaçants au sujet d'Alicia. Elle en perd la garde aussitôt. Et il fallait qu'elle en perde la garde. Ça, c'est une mère, selon moi, qui a démontré qu'elle était inapte à être la mère de cette petite Alicia-là. Le père. Le mot qui me vient à l'esprit est cabochon. Il a la garde de sa fille, mais ses parents à lui sont là, au-dessus de son épaule de gars de 22-23 ans. Ils veillent sur la petite. Ils le connaissent, leur fils, et ils ne lui font pas confiance. La nuit, ils ne se lèvent pas pour la nourrir quand Alicia pleure. Sa mère doit le réveiller. Il ne veut pas la nourrir. Sa vision? Le bébé doit apprendre que la nuit, on dort et que justement, pour lui, il n'est pas question qu'il se lève deux fois pour faire boire sa fille. Alicia n'a alors même pas 4 mois. Ses parents insistent. Quand la petite a soif, il faut la faire boire. C'est un bébé. Il les envoie violemment promener. Les rendez-vous d'Alicia chez les médecins, ce sont les parents du père qui s'en occupent. Le père dira « J'ai pas besoin d'y aller si vous, vous y allez ». Et ça continue comme ça. Ça, c'est le profil des parents d'Alicia au moment où elle est née. Alors, sa mère a perdu sa garde dès sa naissance pour des raisons assez évidentes. Et le père, qui n'est pas plus apte à être parent à mes yeux à moi, a finalement eu la garde plusieurs années plus tard.
Mais sa meilleure phrase, et là où il va trouver les mots les plus justes, d'après moi, dans cette première chronique-là, d'ailleurs, les deux chroniques dont vous fait part, c'est des chroniques d'anthologie, c'est des chroniques magistrales.
Ouais.
Des dangers partout, ça, c'est la première de samedi. Juste un petit peu plus loin, le passage que tu nous as résumé, il nous dit... Dans les cas des parents d'Alicia, le mot est évoqué pour qualifier leurs aptitudes de parentalité inaptes. Mais en lisant les documents de la Cour, on se dit que ces gens-là étaient probablement inaptes à la vie tout court. Et ça, tu sais, on les cherchait les mots juste la semaine dernière. Puis tu sais, sous le coup de l'émotion, des fois, t'sais, on part dans des grandes diatribes. Puis tu arrives sur les médias sociaux, tu vois comment les gens sont en colère et tout ça. Puis tu sais, lui, il a juste pris un peu de recul. Remarquez que Patrick Lagacé s'est pas exprimé tout de suite sur le sujet.
J'ai vu
sur les médias sociaux, là, il demandait des gens de la DPJ. Il a lu les documents. Et là, il a trouvé l'expression qui définit ce type de personne-là. Des gens inaptes à la vie. Dans une société comme la nôtre, on a fait le choix d'accepter ces gens-là et de s'en occuper. Parce qu'on est une démocratie,
ouais.
On est une démocratie, on a des droits de l'homme, toutes les personnes ont un droit égal. Toutes les personnes doivent être respectées, ils ont les mêmes droits que tout le monde. Donc ces gens-là, en quelque sorte, qui ont aucune capacité intellectuelle, capacité émotive, capacité parentale, capacité économique, qui sont des boulets pour la société, malheureusement, à cause de leur éducation, à cause de leur milieu, tout ça, on a fait le choix comme société, et c'est un choix qui, je pense, est bon, et le juste choix moral, de s'en occuper. Ouais. Et on a failli
à
l'attendre.
Mais si t'es inapte à la vie et que tu fais du mal à toi-même seulement, regarde, c'est ton problème. À la limite, là, moi, je vais te dire, c'est ton problème. Si tu décides de prendre des décisions qui vont te faire mal à toi seulement, c'est ton problème, puis on n'est pas obligé de t'appuyer là-dedans. Par contre, c'est quand tu décides que le fait que tu sois inapte à la vie ou inapte à être parent, là, tu décides de faire du mal à autrui, il est là le problème. Puis ça prend pas de diplôme pour être parent. Hein?
Non.
Ça prend pas de vérification quelconque pour être parent. Ça prend pas de permis pour être parent.
Exact.
N'importe qui peut devenir parent si, évidemment, votre biologie vous le permet. Là. Et il est là un petit peu le problème. Je pense que avant de faire des enfants, il faudra avoir l'intelligence et le jugement de s'arrêter deux petites secondes et de se demander est-ce que vraiment je vais faire du bien à cet enfant-là en le mettant au monde.
Sauf que quand tu arrives avec des parents comme ça, qui sont décrits comme Patrick Lagacé, comme inaptes à la vie, ils n'ont pas cette capacité de ce jugement-là. Et ça m'amène à une discussion que j'ai eue à plusieurs reprises avec ma copine, parce que, évidemment, nous on a une maison, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, un enfant, là, c'est dans nos plans prochains. Je te dis pas l'année prochaine, je pars en congé parental, mais peut-être 2-3 ans, ça se pourrait. Tu sais, on est dans ce processus-là de réflexion. Mais c'est épouvantable, parce que, tu sais, je le dis souvent à ma blonde, là, on est des deux bons emplois. On a des bons parents, on a une bonne famille, on est éduqué, on a eu tous les éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est privilégié, je pense, à plusieurs niveaux. Et on se questionne, on se torture l'esprit depuis des années pour se demander si on va avoir un environnement sain et optimal pour élever un enfant. Or, à côté, la dame à Granby, elle en a eu 4.
Enceinte de son 5e.
Elle en a eu 4.
Ou, je sais pas, mais en tout cas, il y a un article qui dit qu'elle
alors, comme société, et je pose une question. Comme société, comment est-ce qu'on peut réussir à s'améliorer quand les gens qui sont privilégiés dans la société se torturent, font un enfant après 10 ans de réflexion, puis les gens qui sont inaptes à la vie en font 4. Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, et j'ai pas la réponse, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que laisser à ces gens-là les mêmes droits que tout le monde. Tout le monde a les mêmes droits. Ça, je l'achète à 100 000 à l'heure. Je l'achète à 100 000 à l'heure, cette affaire-là, que tout le monde a les mêmes droits. Tu peux pas commencer à contrôler qui fait des enfants ou pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. On est une démocratie, on est libre. Mais comment tu fais, je n'ai pas la réponse, pour réussir à te dépêtrer de certains merdiers dans lesquels on est poigné depuis des décennies?
Puis l'injustice monumentale de la vie, c'est que ce matin, dans le journal, tu as une histoire de parents qui sont probablement 100% aptes à être parents, mais qui ont pigé un mauvais numéro et qui sont malchanceux au point d'avoir un enfant qui a une maladie. Ce qui est décrit dans le journal, c'est que leur petite fille, à chaque fois qu'elle s'endort, elle peut arrêter de respirer. Donc, à chaque fois qu'elle est fatiguée puis qu'elle est sur le point de s'endormir, il faut qu'il la branche sur un respirateur artificiel. Cette maladie-là, là, ça touche un enfant sur 200 000.
C'est incroyable.
Ces parents-là ont probablement 2 très bons emplois. Ils ont un environnement puis des circonstances parfaites pour avoir un enfant. Ils ont décidé d'avoir un enfant puis de l'élever dans l'amour. Et ils sont tombés sur une situation de malchance où ils ont un enfant qui est malade, qui a une maladie extrêmement rare. Et pendant ce temps-là, tu as des parents 100% inaptes à avoir des enfants qui vont avoir un enfant 100% en santé, mais qui va vivre une vie malheureuse. Et ça, c'est si ils réussissent à survivre.
Ce que je te raconte, un cas très proche de moi, mon meilleur chum et sa blonde, OK? 4 ans d'effort. 7 inséminations avant finalement qu'elle tombe enceinte. Pendant la grossesse, ils ont eu la peur de leur vie parce que dans le cerveau du bébé, il y avait quelque chose, une dimension un peu inquiétante. Fait qu'ils ont stressé jusqu'à la fin de la grossesse. Quand elle a accouché au départ, tout semblait aller bien. Finalement, maladie cardiaque. Il doit être opéré après 6 à 8 mois. Quand elle retourne à la maison avec son bébé avant l'opération, tout semble aller pas si pire. Une infirmière qui fait des suivis, hémorragie grave, elle manque mourir. La mère. Finalement, le petit bébé aujourd'hui va super bien. Il y a 8 mois, il y a une opération cardiaque. Mais ils m'ont dit récemment, parce que ça va être au mois d'août le premier anniversaire de leur petit bébé. Nous, la naissance de notre enfant, on l'a comme pas vécu. Hein. C'est tout le beau, tout ça, on l'a pas vécu. 7 inséminations, 4 ans, et c'est probablement les meilleurs parents que je connais. Il y a une injustice profonde.
Non, c'est vraiment injuste.
Il y a une absurdité à la vie. Pendant ce temps-là, la petite Alicia, là, son nom fictif qu'on lui donne, la petite Alicia, elle a vécu un enfer pendant 7 ans. Par des gens qui n'auraient manifestement jamais dû avoir d'enfant.
Alors, bravo à Patrick Lagacé qui a su trouver les mots pour vraiment décrire la situation. Je pense qu'il a dit tout haut ce que plusieurs personnes pensent tout bas, mais on a un petit tabou par rapport au fait de dire que certains parents ne sont pas qualifiés pour être parents. Mmh. Mais les mots qu'il a choisis pour décrire la situation ont vraiment été parfaits. C'était parfaitement employé. Alors, si vous voulez lire ça, c'est deux chroniques de Patrick Lagacé qui ont été publiées samedi et dimanche dans la presse. Ça vaut vraiment la peine. Il est 6h46.
FM 93, Doc Mailloux avec José Arsenault.
C'est pour dire que j'ai vu des gestes que j'ai rien fait finalement. Et j'y pense quand même assez souvent. Là. Le petit garçon, il avait 2 mois, mettons. Il brassait la poussette quand il était dedans.
Qui brassait la poussette? Qui brassait
son père? Et dans le fond, j'aurais dû faire quelque chose.
Doc Mailloux avec José Arsenault. Doc Mailloux. Du lundi au vendredi, dès 9h30. FM 93. FM 93. Ça me parle.
Radiologie Maillot a de nouvelles disponibilités de rendez-vous rapides pour les infiltrations sous scopie. Et savez-vous pourquoi les gens viennent chez nous pour leurs infiltrations? C'est parce que la clinique compte sur des radiologistes d'intervention qui en font depuis des années. Contactez-nous maintenant, c'est sans frais. RadiologieMaillot.com.
Solaris Québec, portes et fenêtres. Sylvain, le printemps est à nos portes et nos fenêtres chez Solaris.
Oh, Joanne, beau jeu de mots. Puis t'as tellement raison, avec le temps qui se réchauffe, on a le goût de changer d'air.
Exactement. Et pour les portes et fenêtres, on consulte les experts de chez Solaris.
Joanne, tu savais que Solaris compte plus de 45 ans d'expérience?
Ben oui. En plus, chez Solaris, on achète du manufacturier. Il y a donc un meilleur contrôle de la qualité et c'est moins cher.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Au 710 rue Bouvier.
Nous, on répare des freins. Nous, on fait de l'alignement.
Nous, on vous conseille pour vos pneus et on fait l'entretien complet de votre véhicule. Nous sommes Pneus Ratés, vos experts automobiles.
Obtenez des Toyo Versado noirs à partir de $21,90 par pneu par mois sur 6 mois. De plus, recevez une remise postale de $70 à l'achat de 4 pneus Toyo sélectionnés du 16 mars au 31 mai. Toyo Tires, un niveau de sécurité plus élevé.
Prenez rendez-vous en ligne ou passez dans l'une de nos succursales.
Nous sommes Pneus Ratés. Votre détaillant.s.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer à L'Ophélia. Côté mer, L'Ophélia vous offre entre autres le risotto au homard, la morue d'Islande et le crabe des neiges. Côté terre, découvrez une vaste sélection de viandes, du contre-filet au tomahawk en passant par le filet mignon. Une belle façon de découvrir L'Ophélia, c'est de profiter du menu midi à prix d'amis. Dans un décor appelant un yacht de luxe, embarquez à bord de L'Ophélia. Service de valet gratuit en tout temps. Réservé dès maintenant à L'Ophélia sur Grande Allée.
Pour moi, là, derrière le nom de tout commerce sérieux, il y a une promesse. Et chez J.D. de Boischâtel, il y en a toute une. C'est « J'ai le deal ». Fin bout, je les connais. Fie-toi sur moi, c'est plus qu'une promesse, c'est un fait. Parce que Pierre Tremblay et son équipe y ont compris qu'on voulait pas payer pour la méga bâtisse contenant 80 véhicules, on veut rien qu'un char. Et on le veut au meilleur prix. Pour un Jeep, un Ram, un Chrysler, le vrai deal, est à Boischâtel. JD Chrysler Jeep, à une minute des chutes.
Pourquoi autant de gens achètent un Arctic Spa? Constatez-le vous-même chez Club Spa. Ils sont les seuls à pouvoir être munis du système d'entretien de l'eau automatisé Spa Boy. Pour un temps limité, sur les Arctic Spa sélectionnés, c'est Club Spa qui paye les taxes. Club Spa, à Beauport et l'Ancienne Lorette.
La fièvre saisonnière Steel est de retour avec des CHN à batterie à partir de $399,95. Des souffleurs et des coupes-herbes à batterie à partir de $159,95. Les outils à batterie Steel démarrent, fonctionnent et s'entretiennent facilement. Et pour un temps limité, économisez $30 à l'achat d'un deuxième outil à batterie ou une deuxième batterie. Trouvez le détaillant Steel pleine ligne ou le détaillant Steel d'outils à batterie et électrique le plus près de chez vous au steel.ca.
En 2019, levons glorieusement notre fourchette pour rendre hommage au bon goût de chez Ashton. À nos folies, nos gourmandises, nos gâteries, puis à tous ceux qui, comme nous, sont amateurs de la poutine qui fait la fierté de Québec. Chez Ashton, bon à tout coup depuis 50 ans.
C'est-tu pas agréable le printemps, hein, Guillaume?
Mais hein!
Avec les petits oiseaux qui chantent, c'est dur de faire plus beau.
Ben moi, je trouve que si en plus tu profites de l'événement Avantage Hyundai, ça va être encore plus beau. Tu obtiens plus des caractéristiques que tu veux, comme Apple CarPlay et Android Auto, une garantie de 5 ans, plus tu profites d'un financement à 0% ou une location à partir de 0,9% sur les modèles sélectionnés. Et sais-tu ce qui est encore plus beau?
Mais non, quoi?
Tu peux en profiter jusqu'au 31 mai. Fait que dépêche.
Détachez votre concessionnaire ou à HyundaiCanada.com.
Pour communiquer avec notre studio, texto 25-226. Jusqu'à 9h30, c'est Bouchard en parle.
Bouchard en parle avec toute l'équipe.
FM 93.
6h50, on va revenir sur un petit dossier qu'on a fait la semaine dernière sur l'aéroport de Québec.
L'aéroport,
comme dirait Gaétan Gagné, ouais, qui est le PDG de l'aéroport. Pendant je ne sais pas combien d'entrevues, il a vraiment dit aéroport, le gros comme le bras.
Répétition.
Oui, à répétition, c'est ça. C'est aéroport en passant.
Combien de prix a eu l'aéroport déjà?
L'aéroport a eu 14 prix, je pense.
Bravo.
C'est pour ça.
Infolette.
Alors, oui, c'est ça. On va y revenir parce que la semaine dernière, Jean-Simon, Alexis a fait un petit dossier sur une auditrice qui voyage beaucoup.
Ouais.
Qui habite à Québec et qui voyage un peu partout dans le monde, de ce que j'ai compris. Mm-hmm. Et il y a eu une attente anormale à l'aéroport de Québec, à la sécurité, en fait.
Ouais,
donc, c'est pas les douanes. C'est une fois que tu as enregistré ton bagage, tu dois passer à la sécurité. Habituellement, c'est pas très long. Là. Quand
non,
même,
non,
qu'il y a 30-40 personnes devant toi, en 10 minutes, t'es passé. Là. Mais elle, combien de temps ça avait pris la semaine dernière?
1h55 minutes, bien précisément, un jeudi matin à 9h.
À 9h. Donc, il y avait, je pense qu'elle avait dit qu'il y avait une quarantaine, cinquantaine de personnes.
Moins d'une cinquantaine de personnes.
Et il y avait une personne qui travaillait ou deux, je pense.
Ah non, il était plus que ça. Il y avait 6 employés à ce moment-là qui travaillaient. Mais pourtant, la file n'avançait pas plus que ça.
Ah bon?
Mais
ce qu'on avait donné comme raison, c'est parce qu'on avait déménagé l'espèce de kiosque de sécurité. Là.
La zone de déménagement, la zone de sécurité, en fait, elle avait déménagé. Et on disait, l'aéroport, c'est un temps d'adaptation, ça va se placer. mais elle dit parce qu'elle dit, c'est pas normal qu'on doive attendre 55 minutes à pas de tortue quand il y a deux lignes de sécurité qui sont ouvertes, qu'il y a à peu près 5-6 employés par ligne et probablement autant d'employés qui se tournent les pouces en attendant que le monde passe au scanner.
Ah, ça marchait pas. Puis on revient ce matin parce qu'on a publié la photo de la file d'attente sur la page Facebook de Bouchard en Parle. Je suis allée lire tous les commentaires avec attention. Et je vais vous dire, on se contente de pas grand-chose à Québec. Là. Si pour vous, c'est pas grave d'attendre une heure de temps à la sécurité à l'aéroport international Jean-Lesage...
International.
Oui, à l'aéroport international Jean-Lesage. Mm-hmm. Si pour vous, c'est normal, c'est pas grave. C'est comme dans plein d'autres aéroports à travers le monde. Des fois, c'est long, la sécurité. Moi, je trouve pas ça normal. Si vous, ça vous dérange pas d'attendre, ben grand bien vous fasse. Ça veut dire que vous avez plus de patience que bien du monde. Mais moi, en plus de payer un billet d'avion qui est plus cher qu'ailleurs, si en plus, il faut que j'attende 10 fois plus longtemps qu'ailleurs, je trouve pas ça normal. Et là, parmi les commentaires, il y en a qui disaient, mon Dieu, elle est jamais allée à JFK, elle, c'est sûr. Hey, êtes-vous vraiment en train de comparer l'aéroport Jean-Lesage à Québec à JFK, là? On a un problème. On a vraiment un problème. Mais sincèrement, en grande majorité, les commentaires, c'était de quoi elle se plaint, elle chiale pour rien, elle a jamais voyagé à travers le monde pour penser qu'une heure d'attente à la sécurité, c'est long. Écoutez, je suis pas celle qui a voyagé le plus dans le monde non plus, là. Mais quand même, quelques fois dans ma vie, j'ai jamais attendu une heure à la sécurité. C'est jamais arrivé.
Puis...
Jamais, jamais.
Et tu sais, j'ai décidé de faire des vérifications aussi. J'avais appelé à l'aéroport de Québec pour obtenir leur version. Puis eux disaient effectivement que ça a déménagé tant d'adaptations. Mais eux recommandaient, je leur ai posé la question, combien de temps d'avance est-ce que vous recommandez d'arriver? Ils me disaient 2 à 4 heures. Le problème, c'est que la dame là, est effectivement arrivée 2 heures d'avance. Elle est arrivée à 8h15 le matin, puis le vol est parti à 10h25.
Bon, c'est 2 heures.
Elle était dans ses temps en masse. Mais le problème, c'est qu'aussitôt qu'elle est arrivée, normalement, elle dit, on a le temps de se promener un petit peu. Puis mais là, elle disait tout de suite, les gens de la sécurité ont dit, là, elle est passée tout de suite la sécurité, aller penser tout de suite à la zone parce que c'est en retard ce matin. Et là, ben elle m'a réécrit en fin de semaine et dimanche. Elle me dit « Salut Alexis, elle dit, je viens de passer la sécurité à l'aéroport de Fort Lauderdale. Arrivée en ligne à 13h31 et à 13h38, c'est fait. Elle avait passé la sécurité. Une quarantaine de personnes devant moi, 3 lignes ouvertes, seulement 3 employés par ligne. »
Alors, c'est sensiblement la même situation qu'à Québec, à 2-3 personnes près.
Ouais.
Et le fait qu'il y avait une ligne de plus d'ouverte, mais il y avait moins d'employés par ligne, par exemple.
Exact.
Et ça a pris combien de temps?
7 minutes.
Versus 55 minutes
55
ici à Québec.
À Québec. Et là, elle dit, on a d'affaires à avancer, ça roule et les employés sont super gentils et agréables.
Si vous trouvez ça encore normal que ce soit aussi long à l'aéroport de Québec, bien écoutez, si ça vous dérange pas... C'est correct, là. Je veux dire, c'est votre droit, là. Vous avez bien le droit. Mais je vous dis, les commentaires, en grande majorité, c'était des gens qui disaient qu'elle chialait pour rien.
Ben,
je suis désolée, mais tu chiales pas pour rien quand tu payes un billet d'avion plus cher qu'ailleurs et qu'il faut que tu attendes une heure à la sécurité
exact.
Quand tu as 2 lignes d'ouvertes pour 50 personnes.
Et ça, elle a tenu à y répondre. Parce qu'elle m'écrit, elle dit une chose importante qui est passée sous silence. Elle dit, au prix qu'on paye nos billets d'avion, là, elle dit, on a droit à un service qui va avec. Elle dit, je considère que j'ai le plein droit de me plaindre puisque justement, j'ai payé pour un service inclus avec mon voyage. Et la sécurité fait partie de ces services-là. Nous, les clients de l'aéroport et les employés ont un job grâce aux billets que nous choisissons de payer.
Absolument.
Ce qui est souvent, elle insiste, très cher à partir de Québec.
C'est pas gratuit comme à l'hôpital.
Vous savez que l'aéroport de Québec fait souvent état de ses prix, 14 prix, gros, international, belles œuvres d'art, immense, international, ça revient beaucoup. Connaissez-vous la fable de La Fontaine, la grenouille et le bœuf? Mm-hmm. Je vous lis ça rapidement. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieux s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler sa grosseur. Disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez? Le bœuf répond, non, mais voici donc, non. Alors la grenouille continue, s'enfla si bien qu'elle creva. La morale, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Autrement dit, l'aéroport de Québec a soufflé, enflé pour tenter d'égaler les aéroports bœufs d'ailleurs en Amérique du Nord, jusqu'à ce qu'il éclate au grand jour et qu'on dévoile que finalement ce n'était qu'une grenouille.
Non, mais si vous êtes pour charger aussi cher pour un billet d'avion, la moindre des choses, c'est d'avoir un service qui va avec. Juste préciser quelque chose sur le 2 à 4 heures d'avance qu'il faut arriver pour les vols. Moi, j'ai toujours entendu 3 heures. Ça a toujours été ça à travers le monde. On dit arriver 3 heures avant votre vol. Et souvent, on ajoutait arriver 3 heures d'avance si vous avez un vol international. Ouais. Si vous avez un vol qui est local ou national, domestique, pas besoin d'arriver autant d'avance que ça. Là. Et ça a toujours été ça. Puis à l'aéroport de Québec, jamais que j'ai entendu qu'il fallait arriver 3 heures d'avance. Au contraire, je veux dire, c'est malgré le fait que c'est l'aéroport international Jean Lesage, la réalité, c'est qu'il n'y a pas du tout l'occupation que l'aéroport à Montréal peut avoir. Fait que 3 heures d'avance pour un vol à Québec, moi, je trouve ça beaucoup. Là.
Et entre l'aéroport de Québec et celui de Fort Lauderdale, s'il y en a un des deux qui aurait toutes les raisons au monde que ce soit lent et très minutieux, à la sécurité.
Oui, c'est vrai.
C'était Fort Lauderdale. Mm-hmm. Il y a 2 ans, il y a eu un attentat.
Ben oui. Effectivement, c'est vrai.
Une fusillade, là.
C'est vrai. Puis pourtant, c'est pas comme ça. Alors, 25-226, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, j'ai vu que les réactions, c'était vraiment que les gens trouvaient qu'on se plaint pour rien. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais tout le monde a droit à son opinion.
Justement, j'aimerais répondre à Bernard au 25-226 parce qu'il écrit, quand tu vis des épreuves comme la dépression ou le cancer, le bout de la chose, c'est que tu décides de ne plus te plaindre des choses futiles. C'est sûr qu'une épreuve comme une dépression ou un cancer, c'est incomparable à quoi que ce soit. Sauf que, malheureusement, c'est un peu l'argument du monde qui crève en Afrique. Là.
Ben, c'est ça.
Ça marche pas. C'est parce que quand tu vis une situation, que ce soit une crevaison de pneus ou ton plat qui est pas chaud ou ton café qui coule pas le matin, je veux dire, à ce moment-là, c'est déplaisant pour toi. Ça veut pas dire que c'est comparable à un cancer ou à la dépression. Mais il y a un droit à chaque personne de se plaindre lorsqu'un service qui est attendu n'est pas offert.
Il y a quelqu'un qui nous écrit aussi concernant le temps où il faut arriver d'avance. Il dit les comptoirs de service ouvrent 2 heures avant pour les vols intérieurs. Alors, ça ne donne rien d'arriver 3 ou 4 heures avant de toute façon parce que vous ne pourrez pas aller vous enregistrer, sauf peut-être pour Air Transat.
c'est toujours la première étape. Là,
oui, c'est ça.
Tu commences par là.
Fait qu'à même t'attends 4 heures d'avance, tu vas attendre 2 heures dans l'entrée de l'aéroport. Tu ne pourras même pas aller t'enregistrer. Mm. Fait que non, 2 à 4 heures pour l'aéroport international Jean Lesage pour arriver d'avance pour un vol, je trouve ça un petit peu tôt. Much. Il est 6h58.
Je préfère mon Québec Air Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je ne sais plus où je suis rendu.
L'avant-match avec Dan Pou. Lundi au vendredi, dès 18h, au FM 93.
Yabadabadabadou, l'été s'en vient. Ah, oh, mais vous portez des orthèses. Pas de problème, passez voir les orthésistes du pied de Québec. Ils vont vous fabriquer des orthèses plantaires, incluant une sandale Mephisto. Et vous achetez du fabricant, donc c'est moins cher. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande.
Les gens de l'atelier m'ont dit, on aimerait ça que tu parles de notre nouveau menu. On en est très fiers. Puis là, j'ai ça sous la main et je les comprends d'être fiers. Gravlax de truite au gin atelier, tartelette au canard confit, fettuccine au lapin braisé, le fameux contre-filet de bœuf. Si vous aimez les tartares, ben l'atelier, c'est le maître en la matière avec ses tartares de thon, de bœuf, de saumon, de bison. Et dans la portion Aujourd'hui on triche, les rondelles d'oignon à la bière et le fondant de bœuf au cheddar. Commencez à avoir faim? Allez essayer le nouveau menu du bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
Ton beau-frère te dit, moi, mon homme, j'ai eu un bon prix parce que j'ai attendu à la fin du mois pour acheter mon auto.
Il y a même des chroniqueurs automobiles qui vous le disent.
En tant que spécialiste, je vous le dis, pour les meilleurs prix, c'est à la fin du mois que ça se passe.
Eh bien, chez Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan, on les fait tous mentir. Avec nos offres uniquement offertes les premiers jours de chaque mois chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan, pas besoin d'attendre. Parce que nous, la fin du mois, on la fait au début.
Mais voyons donc, c'est tout rouillé. Le céramique est tout cassé. Sa salle de bain a juste...
Pas de bon sens, comme est belle ma nouvelle salle de bain. Sérieux, merci pas.
Avec des vrais prix de fou, Canac aide pour vrai.
Chérie,
Pourquoi il y a deux valises dans la chambre d'amis?
Hein? Ah, oh, c'est juste ma sœur. Avec sa rupture pis tout.
OK, OK. Puis les deux valises dans le salon?
Oh, c'est ma petite cousine. Elle déménageait en ville.
OK, OK. Puis la grosse valise dans notre chambre?
Ouais, c'est ma mère. Elle sent bien seule ces temps-ci.
Ces temps-ci.
En ce moment, chez Vidéotron, regroupez vos forfaits mobiles sous un même toit et obtenez jusqu'à 40 gigs gratuits par mois. Des conditions s'appliquent. Vidéotron.
Ce dimanche, célébrez la fête des mères chez Saint-Hubert. Toutes les mamans présentes recevront un ensemble cadeau contenant un duo de crème Allo Fruits et Passion. Réservez dès maintenant. Rotisserie participante, saint-hubert.com.
Oh, regarde celui-là. Tu serais jolie là-dedans. Hey, je pense que ça t'irait bien. Ouais, OK. Je vais prendre celui-là.
Pour avoir du style et du plaisir, ça vous prend le Ford EcoSport. C'est le petit VUS qui emmène large et qui est rempli de technologies comme la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto offerte en option. Dès maintenant, obtenez 3500 $ de rabais en plus de bonus technologie de 750 $ sur tous les EcoSport 2018-9. Procurez-vous le petit VUS construit pour de nouveaux sommets. Procurez-vous l'EcoSport chez votre détaillant Ford ou visitez Ford.ca.
Messieurs, vous devez passer une résonance magnétique de la prostate. IRM Québec est la seule clinique à vous offrir la solution de dépistage du cancer le plus répandu chez les hommes. Rendez-vous rapide dans un milieu calme et sans stress. Envoyez votre prescription en ligne. IRMQuébec.com.
Vous songez à la proposition ou à une faillite pour régler vos problèmes financiers? Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. Rencontrez sans frais l'un de nos experts en prenant rendez-vous à llTT.ca. Mallette, avec vous, là où ça compte.
En incluant l'Ascent 2019, Subaru vient de gagner 8 prix Meilleur Choix Sécurité Plus 2019. Vous avez bien entendu, 8 prix. Non, trop hockey. Trop ski. Merci. Subaru, confiance et évolution.
T'es un auditeur du FM 93. Tu veux surtout être un auditeur du FM 93 pendant la promotion Carrier chez Filtre Plus. Rencontre un conseiller et demande une soumission pour un climatiseur Carrier en inventaire. Après, tu dis que t'es un auditeur du FM 93 et boum, 100 $ de rabais. Pas plus compliqué que ça. Subvention Renault Climat de 650 $ et une remise postale de Carrier sur les thermopompes Energy Star. Financement disponible. En mai, c'est payant d'être un auditeur du FM 93 avec Carrier et Filtre Plus. À Québec et Shawinigan ou sur filtreplus.com.
On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher.
Le FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme.
Le FM 93, c'est tout ça et plus encore.
FM 93. Ça me parle.
FM 93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle. Avec Elisabeth Crête.
7h03, c'est lundi matin, alors Vez, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'un vendredi à la même heure.
Oui, qu'un vendredi, ça c'est sûr. Oui. Tous les jours sont plus compliqués qu'un vendredi ou à peu près. Et là, c'est compliqué exceptionnellement plus ce matin parce qu'on a un accrochage sur Capitale direction ouest, tout de suite après la première avenue. Ça bloque la voie de gauche, ça refoule jusqu'à Saint-David, même un petit peu avant, là, quelque part entre Seigneurial et Saint-David. Ça, c'est sur Capitale ouest, je vous le rappelle. Henri IV-Sud, à partir de Sainte-Geneviève jusqu'à la sortie du chantier là, à Einstein ou même Charest, c'est chargé. Et sur la rive sud, il y a des petites files d'attente sur la 20 avant d'entrer dans les échangeurs. File un petit peu plus longue sur l'autoroute 73 là, à partir de l'avenue Beaulieu.
La circulation présentée par l'événement approuvé par le fabricant de paquets Nissan. Loué sur 60 mois, le Kicks à partir de $59 par semaine, zéro comptant. Chez Paquette à Lévis.
Un garçon de 8 ans a été retrouvé dans un ruisseau dans des circonstances nébuleuses à l'Ange Gardien samedi. L'hypothèse privilégiée par la Sûreté du Québec est que le jeune garçon aurait subi un malaise avant de s'effondrer et de chuter dans le cours d'eau. Les proches lui auraient ensuite porté assistance après une période encore indéterminée. Il se trouve actuellement dans un état critique à l'hôpital. Le député libéral de Jean Talon, Sébastien Proulx, est de retour en réflexion quant à une éventuelle candidature à la direction de son parti. En février, M. Proulx avait pourtant fermé la porte, mais la pression de certains militants réunis en Conseil général à Drummondville en fin de semaine amène le député à se poser la question. Le prochain chef du Parti libéral sera déterminé au printemps 2020. Et les femmes qui travaillent dans des organisations sous réglementation fédérale pourraient bientôt avoir accès gratuitement à des produits menstruels. Le gouvernement fédéral propose d'ajouter les produits menstruels dans les fournitures que les employeurs devront offrir gratuitement à leurs employés.
Victoire des Blues de Saint-Louis, 4-1 sur les Stars à Dallas hier. Donc, il y aura un septième match dans cette série-là demain. Ce soir, il y a deux deux matchs avec les Bruins qui jouent à Columbus et San Jose au Colorado. Les Bruins et les Sharks sont en avance 3-2. Et l'ancien entraîneur-chef du Canadien, Michel Therrien, sera de retour dans la Ligue nationale. Il sera entraîneur adjoint d'Alain Vigneault chez les Flyers de Philadelphie.
Du soleil avec un maximum de 17. Puis là, je vous entends dans votre voiture. Vous en allez travailler dans le bureau toute la journée. Bien, la bonne nouvelle, c'est que comme on est au mois de mai, le soleil se couche à 8h maintenant, 20h. Donc, vous avez le temps en masse pour un barbecue en revenant de la job. Demain mardi, maximum de 13 avec quelques averses. Ce mercredi, plein soleil avec 9 et c'est 4 à Québec.
La météo présentée par forceoccasion.ca qui veut acheter votre véhicule, peu importe la marque, et on vous offre jusqu'à 1000$ de plus que la compétition. 1000$ de plus en plein dans le mille. Visitez forceoccasion.ca pour connaître instantanément la valeur de votre véhicule actuel.
FM 93, ça me parle.
7h06, je vais avoir besoin de vous, les auditeurs, dans le prochain segment parce que je me suis pas fait d'opinion encore sur le sujet. Je sais pas ce que j'en pense. Je sais vraiment pas ce que j'en pense. En plus, j'ai un petit mal de tête.
Ben voyons donc, t'as pas lu ça, fait un post incendiaire sur les médias sociaux sans lire un petit peu les détails puis sans te poser de questions.
Écoute, j'ai lu les détails, mais je pense que je vais avoir besoin d'entendre l'opinion de plusieurs personnes pour me forger ma propre opinion après parce que je sais vraiment pas quoi penser de ça. J'ai l'impression que ceux qui étaient contre les piqueries à Québec, les sites d'injection supervisés, en fait, là, j'ai l'impression
plus que
les piqueries. Ouais, c'est ce que piqueries.
Ça fait un petit peu genre. Taudis à Montréal avec des graffitis.
On va dire plus un site d'injection supervisé comme ça. Oui, parce que piquerie, en fait, c'est illégal, si je me trompe pas.
Mais piquerie, c'est vraiment un cru de béton où est-ce que le monde...
Il n'y a pas de spécialistes qui sont là, c'est ça, exact. Non, c'est parce qu'à Montréal, ils ont pris les piqueries, ils ont situé les différentes piqueries et ils sont allés porter, porter des seringues propres et puis tout ça, ces endroits-là.
Mais c'est pas les mêmes spécialistes,
exactement. Non, effectivement, c'est ça. Donc, plus les sites d'injection supervisée. Si jamais, si vous êtes pour les sites d'injection supervisée, je pense que vous allez être pour ce dont je vais vous parler. Si vous étiez contre les sites d'injection supervisée, je pense que votre opinion va aller un petit peu dans le même sens. J'ai l'impression que c'est un peu le même parallèle qu'on va faire avec ce que je m'apprête à vous parler. Il va arriver à Montréal, possiblement même dès cet été, des tests d'analyse de drogue dans différents événements. Là, je vous apprendrai rien ce matin. C'est un secret de polichinelle que dans les événements festifs comme le Bal en Blanc, l'Île Sonic ou Oceaga, il circule des drogues assez graves.
C'est vrai? Ouais, écoute, les gens sont pas à jeun là-bas.
Écoute,
mais je pensais que tout le monde se tenait droit.
Hey, je m'excuse si je t'apprends ça ce matin.
Ah, t'as encore beaucoup à apprendre.
J'ai pété ma bulle.
Mais écoute, c'est un secret polichinelle. Il y a vraiment des drogues assez intenses qui circulent dans ces événements-là. Puis là-dessus, je vais vous dire, le Festival d'été de Québec, là, on a un très beau festival à Québec. Mais on a un festival qui est propre. Parce que jamais que tu vas entendre des histoires de circulation de drogue comme tu vas en entendre à l'Île Sonic à Montréal ou au Bal en Blanc. Moi, je me souviens, le Bal en Blanc, je ne sais même pas si c'est encore à mode, cet événement-là.
Oui, c'est une certaine clientèle qui reste à peu près la même.
Parce que quand j'étais jeune, le Bal en Blanc, c'était l'événement qui était prisé. Non, moi, je suis jamais allée, c'est vraiment pas mon genre. Mais écoute, c'était l'événement qui était vraiment prisé parce que c'est un rave qui dure jusqu'à 8-9 heures le matin. Là. Puis il est organisé, par exemple. Là. Tout est beau. Mais écoute, les gens avaient hâte d'aller au Bal en Blanc pour prendre de la drogue. Là. C'était vraiment ça.
C'est pour ça. C'est pour aller danser.
Ben, c'était aussi pour la musique techno qu'il y avait là-bas puis pour l'événement là, en tant que tel. Mais c'était surtout parce que c'était l'événement de l'année où il allait essayer telle nouvelle drogue et puis il allait passer toute la nuit.
C'était plus la drogue que la musique qui était intéressante.
Non, c'est vraiment ça. Oh, oui. L'intérêt, en tout cas, de moi, ceux que j'ai connus, c'était vraiment la drogue. Fait que non, c'est pour ça que je vous parle du Festival d'été de Québec parce que je suis contente d'avoir un événement à Québec qui attire des milliers, des dizaines de milliers de personnes, mais c'est un événement qui est vraiment propre.
Ça sent un peu le printemps à l'occasion. Ça sent un petit peu le printemps à l'occasion.
Oui, mais ça, comme partout, c'est grave. Oui. Tant que ce n'est pas des drogues de synthèse puis des grosses drogues très, 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 très intenses. Là. Alors, c'est quoi des tests de drogue? Quand vous allez arriver à l'Île Sonic, à Oceaga ou à un autre événement festif à Montréal, il va y avoir une tente avec des spécialistes en drogue qui vont être là. Et quand vous allez avoir votre petite pilule dans votre poche là, que vous êtes sur le bord de prendre lorsque l'événement va commencer, mais vous n'êtes pas certain si la pilule que vous allez prendre, elle est 100% pure de la drogue que vous pensez que vous allez prendre. Peut-être qu'il y a un petit peu de fentanyl dedans, peut-être qu'il y a un petit peu d'une autre substance qui peut être plus grave. Alors, vous amenez votre pilule à cette tente-là et les spécialistes qui sont sur place, avec des technologies très, très sophistiquées, vont analyser votre pilule, votre drogue, et ils vont être capables de vous dire, « Garde, je pense que t'es correct. » ta pilule, elle contient vraiment juste la substance principale. Fais attention, il y a un petit pourcentage de fentanyl là-dedans. Si j'étais toi, je ferais attention.
OK, fait que juste pour être clair, là, les gens, ce ne sera pas des tests de leur urine, des affaires de même. C'est vraiment des tests de la drogue qu'ils amènent pour vérifier si c'est...
Si c'est de la cochonnerie ou pas.
C'est ça, exactement.
C'est pas pour tester ta drogue. Approuvé par Santé Canada.
Tout est de la cochonnerie, selon moi.
Mais c'est ça. Mais tu te feras pas arrêter pour posséder cette drogue-là. Là. C'est au contraire. C'est comme un site d'injection supervisée. Je veux dire, tu te feras pas arrêter pour posséder la drogue en tant que telle. Tu vas juste être... On va t'offrir un cadre sécuritaire pour pouvoir la consommer. Évidemment, ils t'encourageront pas à la prendre après. Ils diront pas, waouh, génial, super, tu vas avoir du fun là-dessus. Je pense pas, là. Mais ils vont être capables de vous dire si t'as de la cochonnerie entre les mains ou si t'as une drogue qui dit vraiment ce qu'elle est. Alors, ça se peut que ça arrive dès cet été à Montréal. Il faut savoir qu'on est un petit peu en retard là-dessus. Parce que je dis Montréal parce que c'est une grande ville où il y a de grands événements. Je veux dire, ça pourrait être Québec aussi, mais on n'est pas hôte de grands événements, sauf le festival d'été où il pourrait circuler une grande quantité de drogue. C'est pour ça que ça va surtout se passer à Montréal. Là.
Au 25-26, au festival d'été, c'est vrai qu'on a la soirée électro. Quelqu'un qui nous écrit, je suis allé une fois seulement, mais trop de grosses drogues chimiques là-bas. J'ai croisé une fille puis toute la soirée, elle pensait qu'il y avait un dragon qui courait après.
Ouais, mais c'est pas... arriver, mais honnêtement, c'est des cas qui sont plutôt isolés.
Les soirées électro. Gros, c'est là. Peut-être plus la clientèle, mais...
Moi, mais jamais que tu vas entendre parler de cas comme c'est à l'île Sonic. Ouais. Là, les gens vont pas à la soirée électro-festival d'été pour prendre la drogue, tu comprends? Oh, à l'île Sonic, t'as un grand pourcentage de gens qui vont pour prendre la drogue. Balle en blanc, même affaire. Et là, je sais pas ce que j'en pense de ça,
mais
sincèrement.
Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que t'as... Qu'est-ce qui te manque pour te faire une tête?
Je sais pas. C'est parce que en même temps, je veux. Si tu pourras jamais empêcher les gens de prendre de la drogue, je pense. Je pense que quand même que tu fais toute la sensibilisation au monde avant l'événement, prenez pas de drogue. Allez-y pour la musique. Allez-y pour avoir du fun avec vos amis, s'il vous plaît. Ne prenez pas de drogue. Je pense que malgré que tu répètes ce message-là à outrance, t'empêcheras pas les gens qui veulent consommer de consommer. Une fois que t'as fait ça. Une fois que tu as pris conscience de ce phénomène-là, est-ce que tu t'assures de leur offrir un cadre sécuritaire pour pouvoir consommer la drogue en toute conscience ou, en offrant un cadre sécuritaire, tu ne fais pas encourager la consommation?
C'est le même
débat. Je suis pris là-dedans, je sais pas.
C'est la question, effectivement, éthique. Tu as bien fait d'amener la comparaison des sites d'injection supervisés qui sous-tend. Puis je vais aller plus loin que toi. Si tu n'offres pas ça, moi je pense que c'est un devoir social, un peu comme les sites d'injection supervisée. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est on a choisi les gens qui font des mauvais choix dans la vie de les épauler parce qu'on est une société comme ça, une société de droit. On a décidé ça, donc faisons le même chose avec les gens qui consomment du MDMA, du MDMA ou du moche ou whatever. Ok, là, on a décidé ça. Il y a des gens qui, qu'est-ce que tu veux, je te dis, il faut que tu les prennes par la main et puis que tu les surveilles. C'est comme ça, c'est le même dans la société. Les événements vont mourir. Et Sonic, si tu contrôles davantage les drogues, prenons un autre extrême. Là. À la place, tu dis, OK, à partir de maintenant, afin d'assurer un climat sain, sans drogue à Il Sonic, on interdit toute forme de drogue chimique, on fait des fouilles et on fait des tests d'urine. Mettons qu'on pousse ça à l'extrême. Il Sonic est mort. Le bal en blanc est mort. Les raves sont morts. Parce que c'est l'attrait d'un rave. Cette musique-là, une musique plus trance, le techno, est amplifié fois 1000 par la prise de drogue chimique. C'est comme ça. Ça a toujours été le même. L'ecstasy, par exemple, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça exacerbe les cinq sens. Fait que t'es dans un contexte où t'es avec plein de monde à moitié tout nu, puis t'entends de la musique, pop, 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 puis là, d'un coup, tu frôles quelqu'un, puis pouf, 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 tout ça, tu capotes, OK? C'est un peu ça le feeling que les gens recherchent à cet événement-là. L'exemple que je vais te donner, on l'a vécu tous les deux, on a eu une réaction différente, un peu en voyage. Les deux, on est allés à la Nouvelle-Orléans.
Oui.
Les deux, on a eu une réaction différente à la fameuse rue Bourbon Street. Mm-hmm. Qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, j'ai dit j'ai trippé. Toi, tu m'as dit j'ai détesté.
Ah, je trouvais ça pas propre.
Pourquoi t'as pas aimé ça?
Ah, c'était pas propre. C'était vraiment pas attirant du tout. Ça sentait mauvais. C'était pas mon genre de monde.
Et t'as entièrement raison. Dans quel état t'étais quand t'étais sur Bourbon Street?
Ben, très à jeun.
Voilà. Alors que moi, j'ai fait le même constat que toi. C'est sale, c'est pas propre. Il y a des danseuses qui se montent les seins à l'extérieur pour te faire rentrer. C'est un bar de danseuses à toutes les deux blocs. C'est particulier comme endroit. Mais prends 7-8 consommations et tout à coup, Bourbon Street, c'est le meilleur endroit sur Terre. Tu capotes, tu tripes, t'as une expérience épouvantable. C'est ça. Bourbon Street, à jeun, c'est poche. Un rave, à jeun, c'est poche. Les Beatles qui prennent pas de drogue en faisant de la musique, c'est probablement poche aussi. Il y a certaines formes de divertissement ou quoi que ce soit qui vont de pair avec la prise de stupéfiants. Je te dis pas que j'aime ça. Moi, je vois pas dans des raves, je suis jamais allé. Mais tu vas tuer les événements si tu contrôles ça. Alors que là, il y a des chances que t'accentues la sécurité sans tuer l'événement.
C'est un événement, a-tu sa raison d'être si ça prend de la drogue pour qu'il soit là?
Ça, c'est une bonne question aussi. Mais il faut savoir, par exemple, que les tests d'analyse de drogue, ça va aller un petit peu plus loin que juste les événements. En fait, ce qu'ils veulent faire à la Ville de Montréal, c'est d'offrir ces tests-là dans trois sphères d'activité. Les groupes communautaires qui œuvrent auprès des toxicomanes, ça, c'est exactement le même principe que les sites d'injection supervisée. Si vous êtes d'accord avec les sites d'injection supervisée, mais vous allez être d'accord avec le fait qu'on œuvre auprès des groupes communautaires aussi. Ensuite, les minorités sexuelles. et les événements festifs.
OK.
Je ne sais pas pourquoi les minorités sexuelles, sincèrement. Il aurait fallu qu'on explique ce point-là.
C'est
Mario
Girard, question.
En passant de la presse ce matin, qui nous explique ça.
Ouais.
Alors, il y a trois sphères donc, où on pourrait faire ça. Moi, je me concentre sur les événements festifs parce que je pense que c'est là où je me pose le plus de questions. Parce que tu vois, les groupes communautaires qui œuvrent auprès des toxicomanes, j'ai pas nécessairement de problème à ce qu'on leur offre ce cadre-là.
Absolument, parce qu'il faut en faire avec des toxicomanes. Par contre, si dans un événement festif comme ceux dont on
parle... Les Sonic, Oshaga ou autres.
Si on leur fournit ce genre de service-là, tu sais, le risque que tu prennes de la drogue contaminée à plein d'affaires, ça peut empêcher plusieurs de prendre de la drogue.
Oui.
Alors que si tu leur permets de s'assurer qu'ils prennent pas de la cochonnerie puis qu'ils risquent pas d'en mourir, comme avec le fentanyl, ben il y a peut-être plus de gens qui vont en prendre de la drogue.
Ben, c'est parce pas que ça, qu'on veut, là. Non, mais ça a démontré un certain succès, par exemple, en Europe, surtout parce qu'il faut savoir qu'on est un petit peu en retard avec ces tests-là. C'est pratiqué beaucoup en Europe et ça a été démontré que les gens qui font analyser leur drogue d'abord, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont un petit peu de cochonnerie dans ce qu'ils pensaient être quelque chose d'assez pur, ben ils vont soit ne pas la consommer ou vraiment diminuer leur consommation beaucoup au cours de la soirée. Et ça, pour eux, ben c'est un certain succès. Mais l'affaire, c'est que c'est sur une base volontaire. T'es pas fouillé au début de l'événement pour voir si t'as de la drogue, puis après ça, on t'oblige à aller la faire analyser. Faut que tu y ailles toi-même à la tente, à la fameuse tente désignée à cet effet-là. Alors, est-ce que les gens vont y aller? Bien, ça, c'est l'autre question. Il y a plusieurs réactions au 25-226, Jean-Simon.
Oui, et la plupart des gens sont pas en accord avec moi, et vos arguments sont pas mauvais du tout, parce que, en fait, c'est deux écoles de pensée, puis je pense que les deux positions se valent vraiment. Tu vois, notamment, Mike nous écrit pourquoi on offrirait un service pour quelque chose d'illégal. On n'a même pas le droit de prendre une bière dans une salle de spectacle. Maryse nous écrit, je m'excuse, quand tu joues avec le feu, tu risques de te brûler. Et du côté de Michel, on dit ma position, assume, fini la déresponsabilisation et le maternage. Tu prends des risques, tu les assumes. C'est vraiment deux écoles. Puis le meilleur exemple, c'est les sites d'injection supervisée. C'est vraiment ça. C'est soit tu dis les gens prennent des risques, ils vont vivre avec les conséquences, ou tu dis comme société, on a un rôle à jouer. Alors, la seule question que je pose à vous, donc avec votre argument qui assume les risques, si c'est votre enfant.
C'est ça.
Si c'est votre ado qui, parce qu'on se le cachera pas, là, on fera pas les aveugles, là, on voit pas les trois petits singes qui voient rien, là. Un enfant, votre ado, il y a des fortes chances qu'à un moment donné ou à un autre, il soit confronté à la drogue. Bon, c'est comme ça, les statistiques le démontrent. Il y a des bonnes chances que votre enfant, à un moment ou à un autre, essaie une drogue. C'est la majorité qui le font. Alors, si votre enfant, par exemple, ça va à Hillsonic, au Ballon Blanc ou un rave, et consomme de l'ecstasy ou n'importe quelle autre drogue chimique, ne seriez-vous pas plus en sécurité d'esprit, en paix d'esprit, en sachant que oui, il va prendre des risques, mais en plus, ça va être analysé. Ce qu'il va consommer, au moins, ça risque pas de se faire une overdose puis qu'on le retrouve mort le lendemain. C'est la question que je vous pose.
Encore faut-il assumer le fait que son enfant prenne de la drogue? Parce que tu as bien des parents qui font du déni volontaire.
De l'aveuglement volontaire.
De l'aveuglement, oui.
Entièrement raison.
Quelqu'un nous dit, je ne comprends pas pourquoi payer pour que des gens puissent se geler la face de façon sécuritaire. C'est non, et c'est complètement différent d'un site d'injection supervisé. Et de la même façon, il y a quelqu'un qui dit, je suis d'accord si l'événement paie pour les frais et paie ses spécialistes à même ses budgets. Autrement dit, si tout est assumé par l'argent de l'événement en question, ben là, à ce moment-là, on est d'accord. Ça, c'est-à-dire que probablement que les gens sont d'accord, certaines personnes sont d'accord si c'est pas nous qui payons pour ça.
Ben, c'est ça, je pense que le point de litige, il est essentiellement au niveau des frais.
Ouais.
Mais le problème, ben en fait, oui, effectivement, que ça se fait pas gratuitement, offrir ce service-là. Mais d'un autre côté, avoir quelqu'un qui part pour une overdose vers l'hôpital, c'est pas gratuit non plus.
Non, c'est pas gratuit.
Il faut que tu le payes, là. Mais puis, en tant que société, on a décidé que les soins de service et les soins de santé, c'était offert gratuitement.
Couvert.
Donc, tu sais, il vaut mieux prévenir que guérir parfois. Là.
Mais ce qui est spécial là-dedans, c'est que Mario Girard dit dans la presse ce matin que tu as certains événements qui ont été consultés déjà pour ça, qui sont assez ouverts à l'idée, puis tu en as d'autres qui sont fermés complètement, qui veulent rien savoir de ça.
Ben,
alors, si tu veux rien savoir de ça, c'est peut-être parce que tu es conscient que ton événement est viable seulement si les gens peuvent, en toute liberté, disons, amener certaines drogues. Et justement, quelqu'un dit, je suis tout à fait d'accord avec Vel, ces événements doivent mourir si c'est relié à l'obligation de prendre la drogue. C'est-à-dire que si ton événement est populaire seulement quand les gens peuvent avoir de la drogue puis se geler à la face pendant l'événement, c'est vrai que c'est peut-être parce que c'est pas si le fun que ça.
Je dirais ça à Tiesto qui est un artiste de grand talent, qui est un DJ incroyable, probablement le meilleur au monde présentement. Personne peut nier la qualité de ce qu'il fait musicalement. Or, allez dans un show de Tiesto puis faites le test autour de vous puis regardez d'après vous quelles personnes sont à jouer.
Tiesto peut pas avoir le contrôle sur les gens.
Absolument pas, mais si t'annules ces événements-là, tu tues Tiesto, tu tues Armin Van Buren.
Mais Tiesto fait de l'argent avec la musique que les gens vont acheter en ligne avec lui.
Bon,
il fait pas juste de l'argent avec ses spectacles.
Surtout que ça doit être des événements qui sont subventionnés par nos gouvernements.
C'est ça. Quelqu'un nous dit on paye le système en de partie. Santé et ça coûte une fortune les gens qui prennent de la drogue. Ça rejoint un peu ce qu'Alexis disait. C'est vrai que quelqu'un qui est toxicomane, quelqu'un qui prend de la drogue, quelqu'un qui fait une overdose, quelqu'un pour qui ça va pas bien, oui, on va payer
celui
pour ça.
C'est celui qui ne sait pas là, ce que dans le contenu du comprimé qu'il va prendre ou peu importe quoi. Là, ben, si au moins il prend 15 secondes pour aller voir ce qu'il y a dans sa poudre ou au moins ce qu'il y a dans sa pilule, ben, peut-être est-ce que ça va y éviter par la suite de se rendre en hôpital et de devoir payer ambulance, médecin et toute la patente.
Effectivement. Là. Quelqu'un nous dit l'approche par réduction des méfaits est presque le seul moyen pour un premier contact avec cette clientèle. Là, c'est sûr que c'est pas toutes des gens qui sont toxicomanes. Là. T'en as des gens qui vont prendre de la drogue seulement à ces événements-là, donc une fois ou deux par année. Là. Mais c'est sûr que c'est gênant d'aller porter ta drogue à la tente pour la faire analyser. Fait que si t'es pour avoir une approche un petit peu plus ouverte auprès de ces gens-là, tu vas peut-être être plus enclin à les attirer vers toi puis à avoir un contact.
Je vais répondre à Louise qui me pose une question qui revient souvent en lien avec les sites d'injection supervisée. Puis je vais y répondre très, très franchement. Elle me demande, Jean-Simon, tu es d'accord donc d'avoir un site d'injection à côté de ta maison? Alors la réponse est oui. Ça me dérange pas. Sauf que, démontrez-moi qu'il y a une valeur quelconque à mettre un site d'injection supervisé à sortie Sainte-Geneviève à côté de ma maison, Val-Bélair. Puis si vous me démontrez que les usagers de drogues injectables sont là, je vais être le premier à dire oui. Si j'habitais à Saint-Roch, je serais d'accord avec un site d'injection supervisé à côté de ma maison. Donc ma réponse est absolument oui. Sauf que, il faut absolument placer, puis ça c'est l'argument principal, il faut que tu les mettes à côté, et sinon c'est pas vrai que ces individus-là qui sont déjà marginalisés, qui ont déjà pas les ressources psychologiques, économiques, vont se déplacer puis faire 3 heures d'autobus pour se rendre puis aller se piquer à Val-Bélair ou Benoît à Sillery, là.
Et je vais finir sur un commentaire que je trouve très très juste et très pertinent. Quelqu'un nous dit, si tu acceptes de baisser la surveillance et laisser la consommation de drogue, ben permettez-nous de boire d'alcool. T'as plusieurs personnes qui prennent des drogues parce que c'est plus facile à dissimuler que de la boisson. Peut-être que de vendre de la bière à un prix raisonnable aiderait à baisser la consommation de drogue. Non, mais ça c'est honnêtement c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces événements-là qui vont prendre de la drogue parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre de la boisson, ils n'ont pas le droit de les amener, puis ils n'ont pas les moyens de payer une bière à 8 piastres puis d'en prendre 5, 6, 7, 8 pour avoir un peu de party dans la soirée. Là. Fait que peut-être que oui, de permettre ou de baisser le prix de l'alcool, est-ce que ça pourrait pas un petit peu influencer la consommation de drogue? Ben, c'est à suivre. Mais le point là-dedans, c'est que je comprends surtout que vous n'irez pas à ces événements-là si vous n'avez pas un moyen de vous geler la face d'une certaine façon.
Ben, c'est surtout que la culture part de ça. À l'origine, ces mouvements-là ont commencé avec ça aussi. Là.
Ben,
les raves dans les années 80, au début, c'était prohibé. Là. Ils ont décidé de légaliser.
C'est vrai. C'est-tu cette musique-là qui joue dans les...
Oui,
comment tu aimes ça? Comment tu...
Ça prend de la drogue.
Ah, ça, c'est mieux, ça, Jean, par exemple.
Hey, c'est tellement pas mon genre de musique.
Pas beaucoup, là.
Ouf! Il est 7h23.
Bouchard en parle.
Actualité.
Actualité.
Analyse.
Entrevue.
Opinion.
Opinion. Et... vos commentaires. Tout ce que vous devez savoir.
Vous rénovez? À quel endroit peut-on trouver le plus grand choix de vinyle click en stock à Québec? C'est chez Céramique L'Entrepôt. Vinyle click imitation bois ou imitation céramique à partir de 1,99$ le pied carré. Céramique L'Entrepôt 850. Pierre Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Uniprix a une bonne et une mauvaise nouvelle pour votre épiderme. La mauvaise, il est à fleur de peau. La bonne, les soins du visage et du corps Vichy sélectionnés sont à 25% de rabais. Jusqu'au 8 mai, détails en circulaire et dans les succursales participantes. C'est la fièvre du printemps chez Uniprix. Avec 200 000 $ en prix à gagner et plus de 20 000 prix instantanés. Les samedis et dimanches, 4, 5, 11 et 12 mai, venez chercher votre carte à gratter en magasin. Certaines restrictions s'appliquent. Détails dans les succursales participantes. Règlement sur uniprix.com.
Vous changez d'auto? ForceOccasion.ca veut acheter votre véhicule actuel, peu importe la marque. Et on vous offre jusqu'à 1 000 $ de plus que la compétition. 1 000 $ de plus en plein dans le mille. Visitez ForceOccasion.ca pour connaître instantanément la valeur de votre véhicule actuel.
Merci d'avoir appelé un Reese en God Junk. Je m'appelle Sarah. Comment puis-je vous aider?
Es-tu trop tard pour faire son ménage du printemps?
Il n'est jamais trop tard pour ça. Le printemps, c'est une question de feeling.
Une question de feeling?
Oui, un beau ciel bleu, des oiseaux qui chantent et les abeilles qui butinent de fleur en fleur, ce genre de feeling-là.
Ouais, ben, je le ressens pas, ce feeling-là.
Si vous le désirez, on peut amener le printemps chez vous.
Vous pouvez faire ça?
Faire disparaître les objets indésirables, c'est notre spécialité.
Waouh, c'est génial. Quand est-ce que vous arrivez?
Appelez au 1-800-GOT-JUNK.
Ou visitez 1-800-GOT-JUNK.com.
Le paradis. C'est pas si loin que ça. Viens voir nos anges.
Gentlemanparadise.com.
Vous êtes toujours prêt à faire des heures supplémentaires. C'est pourquoi on a construit le Ford F-150 2019. Avec la meilleure capacité de remorquage et la meilleure charge utile de sa catégorie, il est prêt à en transporter davantage, à en remorquer plus, ou prêt pour aller au chalet plus souvent. Dès maintenant, obtenez jusqu'à 0 % en taux annuel et jusqu'à 5 500 $ en rabais sur les F-159 2019 sélectionnés. Procurez-vous votre F-150 chez votre détaillant Ford ou visitez Ford.ca.
L'infolettre matinale Le Soleil, votre rendez-vous pour rester informé. Retrouvez le top 5, la caricature de côté, notre recommandation et les articles les plus populaires. Abonnez-vous à l'infolettre sur lesoleil.com.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bon matin.
Hey, bonjour.
Mon Dieu, c'est un drôle de bonjour, ça.
Ah oui,
on dirait que t'as ma bouche pleine.
Non, mais je suis surpris.
Ah, OK. Surpris que ce soit moi encore.
Mais non, j'écoutais votre musique de rave tantôt. Je me disais, aïe, aïe.
T'avais le goût de prendre une petite pilule puis d'être sur le party, toi aussi.
Hein. C'est ça.
C'est ça. Hey, parle-moi du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. On a décidé de faire un petit peu plus d'attitude de Trump, en fait, là-dedans, et d'y aller avec la menace.
Je sais qu'hier, avec ton apéro spritz, tu disais, tiens, qu'est-ce qui se passe avec le conflit américain et Chine?
Ben, en lisant ton sujet, je me suis dit, Pierre-Yves va devoir trouver une façon d'aller chercher le monde avec ce sujet.
Oh, ben, facile.
OK, vas-y.
Dans le moment, là, les Américains, tu sais, ils disent, écoutez, là, en gros, là, Trump, hier, il a pris son Twitter, puis il a dit, écoutez, ça va pas assez vite, la négociation américaine, là. Ben, disons que si jamais vendredi, c'est pas réglé, moi, je vais augmenter de 10 % à 25 % les taxes douanières sur 200 milliards de dollars de marchandises supplémentaires, tu sais. Marchandises, en fait. Puis, sur le reste, je peux encore monter à 25 sur d'autres marchandises pour plusieurs centaines de milliards. En somme, il joue avec la politique mondiale avec Twitter.
Ouais,
c'est comme, des fois, je pense qu'il prend Twitter pour un battleship.
Ben, il joue avec tout, avec Twitter, en fait.
Moi, ouais, mais le problème, c'est que ça, là, moi, mes placements, ils ont goûté un matin, là. Quand tu y penses, pas juste les miens, mais c'est une façon de parler.
Ouais, c'est ça.
Dans le fond, c'est que vendredi, tout allait bien, tout était ouvert. Les gens m'envoyaient des courriels. Là, tu vis la bourse, ça n'a aucun sens. C'est toujours ouvert. J'ai l'impression de vivre au paradis. Je suis dans un dessin animé tellement que ça va bien.
Ouais, c'est bon. On a comme encensé Trump un petit peu la semaine dernière
oui,
dans les médias parce que l'économie va bien et c'est donc
ça veut rien dire, l'économie de Trump. C'est tout ce qu'il a fait, c'est baisser les impôts des compagnies et qu'il a donné du bon rendement pour un an parce qu'évidemment, les compagnies payant moins d'impôts, ça donne plus de rendement aux actionnaires. C'est ça qui est arrivé, on va se le dire, là. Mais c'est basé sur une croissance. Puis là, il vient canarder un de ses partenaires commerciaux principaux, la Chine.
Ouais.
Tu sais, les Américains importent environ 540 milliards de la Chine par année.
Ouais.
Et ils ont un déficit commercial de 419 milliards. Ça veut dire qu'ils importent plus qu'ils exportent, mais c'est sûr. Tu te sers de la Chine comme ton usine nationale. Attends-toi pas à ce que les Chinois aient les moyens de t'acheter des affaires de la même façon.
Ouais, c'est sûr.
Mais là, c'est la théorie des avantages comparatifs. Mais là, Trump, avec ses maudits Twitter, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, l'action d'Apple a baissé 3 % avant l'ouverture des marchés ce matin. Même chose avec Amazon. Ça va donner de la volatilité dans les marchés. À court terme, nos placements vont bouger un peu. Ça devrait pas durer longtemps parce que, tu sais quoi, les Américains puis la Chine, j'aime bien l'image. Je sais qu'elle est peut-être pas très correcte au niveau de la radio, je la dis pareil. C'est comme deux gars qui se tiennent par les couilles, tu sais.
Okay.
Il y en a un qui dit, si jamais tu fais pas ce que je veux, je vais augmenter les tarifs. Donc, il sert. Puis l'autre, il répond, il dit, ouais, mais qui tu penses qui détient ta dette, hein? C'est nous, les Chinois, parce qu'on a une monnaie, nous autres aussi, là. Puis on veut mettre ça par rapport au dollar américain, la stabilité. Fait qu'on pack, nous autres, on a beaucoup de monnaie américaine. Fait que ta dette, là, c'est nous autres qui l'a. Si on a ta dette américaine puis que toi, tu nous fais des achats, l'un et l'autre, on est interdépendants. Si toi, tu sers, moi, je sers, puis les deux, on souffre. Tu comprends? Donc, le but ici, c'est oui, on fait du brinkmanship, la stratégie du bord de l'abîme. On menace l'autre. Mais dans les faits, on est pris pour s'entendre. Hein? T'es toujours mieux de s'entendre quand t'as des pouvoirs sur l'autre que de jouer une guerre commerciale. C'est jamais payant. Mais pour l'instant, avec la bourse, ça va avoir un impact.
Mais la guerre commerciale se joue toujours sur Twitter. C'est ça qui est capoté. C'est quand même spécial. C'est pas des rencontres officielles entre les deux dirigeants ou entre les deux pays, puis on se parle, puis on a des conflits. Non, non, tout se joue sur des tweets.
Ben, c'est drôle, lui. On dirait qu'il se prend pour un influenceur.
Oui, c'est vrai. Il fait tout de l'argent avec ses tweets.
Un peu plus, il va prendre une vidéo de lui-même. Il va dire, hey, la gang, je l'ai payé à la Chine en 4 cadeaux, mais ça marche pas.
Imagine, il fait ça. Hey, j'ai vu un statut Facebook de ta part la semaine dernière. C'était vendredi, en fait, je pense. Tu posais une question ouverte. Ah oui, c'était en fin de semaine. Et là, tu as posé une question ouverte. Tu as demandé combien vous payez votre conseiller, votre courtier en placement pour gérer vos placements, finalement.
Hey là là, moi, je pensais... Je posais une question dans la toute naïveté de ce que je suis, c'est-à-dire, susciter un peu de débat, mais savoir l'information, comment les gens perçoivent le paiement. Et puis là, dans le fond, les réponses sont pas venues des gens, là.
Ils sont venus
des conseillers. Là.
Mais là, c'est parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Tu as conseiller financier que tu peux trouver dans les succursales bancaires qui sont pas payés. C'est pas comme des courtiers. Oui, c'est ça, exact.
Disons que tu as un conseiller en épargne collective qui est le premier niveau jusqu'à un gestionnaire de portefeuille de plein exercice qui va gérer vraiment tout ce que tu as. Okay?
Et qui gère les plus gros portefeuilles aussi.
Là. Oui, mais tout ça crée des frais de gestion. Des fois, dans ton conseiller en épargne collective, tu te chargeras peut-être pas cher parce que c'est inclus dans des frais, tu sais. Mais regardons ça froidement. On paye quelqu'un pour gérer nos placements, faut le rémunérer. Mais évidemment, les pourcentages de commission varient. On dit qu'au Canada, à 250 000, on paye en moyenne 1,43%. À 2 millions et plus, on paye 0,79%. Vous allez dire, c'est pas juste. Plus t'as d'argent, moins tu payes en pourcentage. C'est sûr, ça donne un plus gros montant en dollars. Puis le temps de gestion est pas plus élevé. Donc, le gars à 2 millions, la fille à 2 millions, qui paye 0,79, là, a juste des plus gros placements, mais le temps accordé à cette personne-là n'est pas plus grand.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est normal qu'en pourcentage de tout l'argent que t'as, ça baisse. Mais la question, qu'est-ce qui est juste? Parce qu'à 250 000, si tu payes 1,4%, tu viens donner 3 500$ de ton argent chaque année.
Ouais, mais tu fais combien en moyenne par année en intérêt si tu as 250
000? Ben, en rendement, c'est pas en intérêt, mais en rendement, c'est-à-dire, tu vas faire, si tu payes 1,43, techniquement, tu devrais faire du 5, du 6, tu sais, en moyenne sur 25 ans.
Fait que t'enlèves 1,4 là-dessus, c'est quand même beaucoup, là.
C'est ça, mais ça dépend de la personne, tu sais. Ça dépend si ton conseiller te fait faire plus que ce que tu aurais fait tout seul, parce que c'est la seule autre question.
Oh oui,
ah ouais, tu te penses, bon, combien tu penses que tu peux faire tout seul sans moi? Vas-y. Puis là, la personne va dire, moi, je connais rien là-dedans, mais c'est justement pour ça que tu me payes. C'est comme un plombier. Tu sais, moi, je fais ma propre plomberie, mettons que j'ai un pitrap à réparer en dessous d'un lavabo.
Ouais.
Mais il y a du monde qui sont pas capables de faire ça, qui vont payer 200$ pour un plombier.
T'es capable de faire ça, toi?
Ben oui, je suis capable de faire ça. Hey, 15 minutes d'observation.
Ouais.
Avec un bac, là, je pense, pas pire, là. Tu sais, faire un pitrap, ils te le vendent, le pitrap. Tu sais, il est déjà là, tu le répares, tu le coupes, tu le remets. Tout ce que t'as à faire, c'est recoller les tuyaux.
Mais ça, tu le fais-tu comme Martin Matt le ferait dans les beaux malaises, non, là, c'est-à-dire un peu tout croche, là, ou tu le fais
pas? Non, moi, je fais de la soudure, tout ça. Je vais pas me vanter,
oh,
là,
mon
mais.
Dieu!
Ah okay. Oui. Mais c'est compliqué, la plomberie. Il y a d'autres affaires à savoir, mais en somme, réparer de la plomberie, vous êtes capable. Mais les placements, c'est pareil. Si tu me dis, je veux placer mon argent dans Facebook, ouvre-toi un compte de courtage direct puis fais-le. Mais prends le risque. Tu seras pas conseillé par quelqu'un. Il y a personne qui va dire, hey, ce placement-là, moi, je le vendrais. Tu sais, il t'aura pas cette affaire-là. Mais il y a plein d'applications de robots conseils maintenant qui donnent une partie du travail. Ça dépend de ton type de client. Tu sais, tu vas me dire, Pierre-Yves, va acheter 3-4 FNB ou des portefeuilles équilibrés, là. Il y en a plein. Je suis capable, je sais lire. Ben, vas-y. Faire attention à ce que je dis parce qu'il y a des gens qui vont me trucider, là.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a une valeur. Mais j'ai fait un petit calcul.
Ouais.
Disons que tu as 250 000 à 30 ans.
Mm-hmm.
Mettons que tu es Madame Craig.
OK.
Tu as 250 000 à 30
ans.
Évidemment. Et tu t'en vas vers 65 ans, puis tu investis un pourcentage de ton chaque année. Eh hey, non, mieux que ça. Tu as 250 000 à 30 ans, puis tu mets plus rien. Plus rien. Tout ce que tu fais, c'est faire 5 % de rendement net par année. OK?
OK.
Donc, rendement en TER, mettons. Si tu fais 5 % de rendement dans tes REER, à 65 ans, tu vas avoir 1,4 million. Combien tu vas avoir payé en commission? Beaucoup d'argent. Combien ça vaut en valeur d'actualiser en commission? 116 000 $.
Hey, c'est beaucoup.
Ça en a gros. Mais tu as fait 1,4 million avec 250 000 aussi.
Ouais, je veux bien. Mais...
La question que je veux soulever derrière ça, c'est ce qu'il faut regarder, c'est qui prend l'argent? Le gestionnaire? La firme de gestion? La firme de courtage? Ton conseiller, c'est quoi tes frais puis qui les paye? Sachez que votre conseiller ne fait pas le pourcent ou le 2% que vous lui donnez. Il en donne une bonne partie à du monde en frais de gestion. T'sais. Il y a un ou une secrétaire, il y a de l'aide, il y a la firme de courtage, il y a tout ce monde-là, puis il y a les fonds qui prennent leur commission aussi, leurs frais de gestion.
OK, il y a plusieurs intermédiaires, là.
Mais ça se négocie, par contre.
Ah,
quand
oui?
Vous devenez de plus en plus riche, des fois, certains oublient de réduire vos frais de gestion. Ah ouais, t'es rendu à 1 million, hein, j'avais oublié. Ouais, j'aurais peut-être dû descendre ma commission, je voulais t'en parler. Ouais, c'est ça, parle-moi-en. Tu sais, ça se négocie. Mais évidemment, c'est une question de choix. C'est comme un courtier immobilier, c'est comme votre comptable, c'est comme votre plombier.
Mais parmi les réponses que tu as eues là, sur ton post de Facebook, est-ce qu'il n'avait que c'était beaucoup plus élevé que 1,4%, mettons?
Oui, il y en a qui payent deux, là.
C'est
évidemment, ça dépend quel type de compagnie t'es, comment sont les frais de gestion, quel est ton actif. Là, je te parle de la moyenne canadienne. Mais si la moyenne est à 1,4, ça veut dire qu'il y en a qui sont proches de 2, puis il y en a qui sont proches de 1.
Ouais, c'est ça.
Mais là, tu sais, parce que je regardais une capsule avec Jean-François Pilote, qui est le gars, tu sais, jeune retraité, qui a 39 ans, a dit avec sa blonde,
Nous, on prend
notre retraite du monde corporatif. Puis il dit, moi, je gère mes placements tout seul. Mais ce qui est très intéressant de son côté, c'est qu'il dit lui-même, je m'intéresse aux placements, je regarde mes placements, je gère mes placements, je fais mes transactions. Donc, êtes-vous prête à prendre le Pire French pour faire votre plomberie des placements?
Non, mais c'est parce que c'est du temps aussi. Puis tu sais, je me dis, s'il y a des gens qui sont payés pour regarder ça à temps plein, 8 heures par jour, c'est parce que si tu fais pas un minimum, si tu n'investis pas un minimum de temps pour bien étudier tes placements puis faire ça comme il faut, mais ça se peut que tu fasses des erreurs, là.
Oui, mais là, on va se parler d'une autre affaire. Peut-être les conseillers m'aimeront pas, mais on va en jaser pareil, toi et moi. Ton conseiller va faire ton profil d'investisseur.
Oui.
Il va te séparer en plusieurs tranches de pas risquer pantoute, genre je prends des CPG, sinon je meurs, hein? Très risqué en action, tu comprends?
Okay.
Ou en marché dérivé ou peu importe. Mettons que ça y fait 3 à 5 profils d'investisseurs dans son portefeuille. Mais lui, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il y a un panier d'actions pour chaque profil d'investisseur ou un panier de placement qu'il fait toujours. Donc, dans le fond, oui, il gère des gens, mais il y en a qui gèrent des profils d'investisseurs. Si vous allez voir votre conseiller en épargne collective, là, c'est pas de la rocket science qu'il fait, là. Vous rentrez en banque. Vous dites, voici, j'ai 30 000 $ à placer, je commence d'envie. Parfait, ton profil d'investisseur est, disons, modéré. Parfait. Là, il regarde dans son ordinateur, puis il dit, profil modéré, tu y achètes ça, 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 puis ça, enter. Là, il s'en vire de bord, puis il dit, oh, Madame Crête, moi, je pense que vous devriez prendre des fonds un tel, puis des fonds un tel, puis blablabla. Paf! C'est comme ça que ça marche.
Ouais, c'est pas très personnalisé.
Il close ton 30 000, tu rentres dans ses objectifs, puis quand ça change, il te rappelle, il dit, hey, là, on a revu au niveau de la haute gestion d'entreprise. Et je revois ton portefeuille parce qu'on m'a dit de le revoir. Tu sais, c'est ça aussi. Mais disons-nous une chose. C'est que ça n'a pas besoin d'être du suivi day-to-day de notre propre portefeuille, mais de l'ensemble des portefeuilles de l'ensemble des clients. Par exemple, si je dis à mes clients, tous mes clients d'acheter de la Banque nationale, une fois que j'essaie qu'il faut vendre la Banque nationale, j'appelle tous mes clients qui en ont. Je les ai pas regardés individuellement. Je fais l'inverse.
Alors, ça vaut la peine de magasiner son courtier, c'est ça?
Ben, ça se magasine-tu. En fait, tu connais pas la compétence de chacun ni son travail. C'est une question de relations humaines puis de confiance. Mais tu sais, c'est quoi la vraie job d'un conseiller?
C'est quoi?
C'est de t'empêcher de paniquer. Parce que c'est ça, la vraie job. C'est un psychologue. Tu sais, le monde, il perd une pièce, il capote. Donc, ils veulent tout vendre. Puis le conseiller, il est là pour te bloquer, pour t'aider à te défendre de la personne qui t'a nu le plus en placement, c'est qui?
C'est toi.
Toi-même.
Faut donc, que tu vois à long terme. Dans la vie. Hein? Long terme, ça, c'est un terme qui est utilisé souvent par les courtiers.
Ouais, mais c'est vrai que c'est du long terme. Tu sais, Madame Crête, vous êtes encore toute jeune, là, dans 45 ans, vous serez même pas encore à la retraite, là.
Non, c'est vrai.
Longue carrière.
C'est vrai. Et en plus, ça prend. C'est rendu plus. Je pense qu'ils disent que ça prend genre plus qu'un million à la retraite,
ah,
de placement.
Mais écoute, c'est quand même moi, je pense que ça te prend un million en retraite, pas genre juste pense peut-être.
Non, mais c'est parce que c'est rendu plus que. Il y a 5 ans, j'avais toujours 1 million en tête. Tout le monde m'a dit 1 million, puis c'est rendu plus que ça maintenant.
Là. En fait, là, il parle des fois pour un couple. Tu sais, le gars qui a pris sa retraite, qui dit j'ai pris ma retraite en bas de 40 ans, je pense qu'il n'y a pas 1 million à deux.
C'est
une question de train de vie.
C'est incroyable.
C'est une question de train de vie. Tu sais, moi, personnellement, je pense que ça te prend 1 million par personne. En même temps, si tu me dis ma maison est payée, je vais hériter, je vis sur le Kraft Dinner, ça dépend de ce que tu fais. Puis tu sais, je dis 1 million parce que j'ai 40 ans cette année.
Et les ramènes aussi, les ramènes,
oui,
c'est
oui,
pas
mais
cher.
Tu sais, quand t'as 40 ans cette année, c'est sûr que dans 25 ans, 1 million sera plus gros. Mais si t'as 65 ans aujourd'hui, peut-être que 500 000, c'est assez.
Merci,
Pierre. Tu sais, ça dépend combien tu gagnes.
On se voit demain. Salut, bonne journée, 7h38.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Doc Mailloux et José. Tout de suite après Bouchard en parle au FM 93.
Breaking news. On nous annonce un été 2019 chaud et collant. Les experts nous disent de nous procurer une clim maintenant. Et moi, je vous dis, allez donc chez Enviro-Confort. En ce moment, équipez-vous d'un système éco-énergétique Carrier et recevez une remise allant jusqu'à 1765 $. Ajoutez à ça le rabais printemps d'Enviro-Confort de 150 $ à l'achat d'un système de chauffage ou de climatisation. Attendez pas d'être en plein dedans. Les remises de Carrier, les experts à votre service, c'est maintenant. Visitez Enviro-Confort.com.
C'est décidé, vous changez vos portes et fenêtres. Comme des milliers de clients satisfaits depuis 15 ans, combinez style, qualité d'assemblage et d'installation avec Ultima Fenestration à Lévis, Québec et Saint-Georges. Ultime fabrication, ultime installation, ultimafenestration.com.
Pendant les jours adrénaline de Mitsubishi Motors, louez un Eclipse Cross avec groupe Black Edition 2019 pour seulement 174 $ bimensuel à 1,99% pendant 60 mois. Incluant les caractéristiques du groupe Black Edition valant 2150 $. Le Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition est offert au prix au détail de 32 942 $ avec 120 paiements, un acompte de 1395 $ et 1980 $ et 70 payables à l'entrée en vigueur de la location. Allocation de 16 000 km, 10 cents par kilomètre excédentaire. Des conditions s'appliquent.